ceux qui bivouaquent en randonnant, c'est encore une partie mineure. Donc on travaille la niche de la niche. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se louper, c'est pour ça qu'on fait l'effort de faire bosser les artistes et autres. Parce qu'on est conscient qu'on est amené à capter une clientèle assez minime, minimale, parmi toute la clientèle qui randonne. Mais donc il faut qu'on fasse un coup et qu'on soit performant pour vraiment maximiser les potentialités de capter cette clientèle de niche.
Voilà. Ce qui est important dans une itinérance, on se souvient plus du bivouac et de l'étape que du paysage en lui-même. Et face à ça, je me remémorais une marche dans le désert où je me souviens bien où j'ai bivouaqué le soir, je veux dire, à l'abri d'un rocher, à l'abri d'un palmier.
Le centre d'art de Vassivière et le parc de Mille Vaches s'associent pour inviter des artistes à créer des aires de bivouac sur le plateau de Mille Vaches. L'idée est surtout de drainer une nouvelle clientèle touristique. Mais les aires de bivouac en pleine nature seraient aussi évidemment utilisables par tout le monde. À Mille Vaches, il y a 2 semaines, les équipes du PNR et du Centre d'Art ont présenté le projet dans une conférence de presse avec les artistes et les architectes retenus, qui viennent essentiellement de Bordeaux, et qui vont maintenant imaginer des constructions légères avec le nécessaire pour passer la nuit à la Belle Étoile dans le parc. On ne sait pas encore exactement où ces aires seront installées ni qui les financera. Vous allez entendre Philippe Conan, le président du parc, Catherine Moulin, qui fait partie du bureau du parc, Sophie Bertrand, qui préside le centre d'art de Vassivière, Antonia Mesquida et Gilles Desperroux, qui travaillent au PNR et qui sont chargés de mission. Vous allez entendre aussi Caroline Leroy, qui vient du parc Livradois-Forez, qui participe aussi à ce projet bivouac, et Jean-Paul Guérin, délégué général d'IPAMAC, la structure qui regroupe tous les PNR du Massif Central. Les artistes prennent aussi un peu la parole. Il s'agit de l'agence Usus de Bordeaux, de la structure artistique Zebra 3 de Bordeaux aussi, et de l'agence Pix, associée à l'artiste Simon Boudvin. Mille Vaches, projet bivouac. Plongeons dans ce mélange de marketing territorial et de création artistique.
Mille Vaches, en France, c'est quoi Mille Vaches? Quand on pose des questions en Bretagne ou à Lille, on vous dit c'est un truc qui est entre Poitiers, Saint-Étienne et Toulouse, là, quoi. Bon, il y a un truc qui s'appelle Mille Vaches au milieu.
Philippe Conan, président du PNR Mille Vaches.
Et d'une manière un peu plus précise, si, c'est un endroit où il n'y a pas grand monde et c'est là. Quoi, je veux dire, hein, bon, et c'est à peu près ça quand on est relativement loin. On a ce qu'on appelle une identité floue, une notoriété floue. Tout le monde connaît le mot de Mille Vaches et les gens ont du mal à y mettre quelque chose de précis. Quand je dis... Quand on est à Saint-Brieuc, quand on est à Lille, bon, c'est vrai, à Limoges, à Poitiers, ça va à peu près. Quoi. À Bordeaux, je ne suis pas sûr que tous les jours, ils sachent exactement où c'est. Quoi. La France a décrété 15 métropoles. Vous faites des cercles de 300 km autour des 15 métropoles et vous avez un seul petit truc au milieu de la France où on n'arrive pas, c'est Mille Vaches. Quoi. Donc ça, on ne l'invente pas, quoi, c'est comme ça. Donc ça a du sens, quoi. L'itinérance sur ce territoire a du sens. Grâce à l'IPAMAC, il y a eu une étude un petit peu pointue qui a été faite par le cabinet Kipik, qui a permis de voir quelles sont les attentes aujourd'hui de l'itinérance. C'est une étude qui a été finie fin 2017, donc une étude très très récente. Le but, c'était pas de prendre un catalogue et puis de dire, ben voilà, il y a telle cabane en bois, ça fait 28 mm d'épaisseur, ça s'enclique comme ça et ça se monte en une journée sur 4 plots béton. Quoi. C'était pas le but de l'opération. Le but, c'était vraiment d'avoir des espaces quoi, qui soient définis, qui soient intégrés dans le paysage, qui aient du sens, qui aient une identité commune, je veux dire, peut-être pas tous identiques, mais avec une identité. Et c'était vraiment de faire travailler des professionnels de l'architecture, de l'art, de la conception, d'associer le centre, vraiment d'être dans une démarche originale de création. 64 candidatures à l'appel à projet, donc ça veut dire qu'au niveau national, ça a parlé. Quoi, je veux dire, il y a des groupes qui ont eu envie de répondre. Aujourd'hui, 2 groupes qui ont été sélectionnés.
Ouais, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'idée de la... du départ de la plateforme d'innovation qui est un dispositif des parcs hein, qui permet de faire remonter des besoins locaux, des analyses, par exemple là des accompagnateurs de moyenne montagne.
Catherine Moulin, membre du bureau du PNR Mille Vaches.
Qui ont ciblé le fait que dans leur circuit, il manquait des certains types d'hébergement, qu'on recevait beaucoup de gens d'un certain âge et que un public plus jeune, il n'y avait pas ce que recherchait un public plus jeune sur le parc en termes d'itinérance, de randonnée. Donc ça, c'est une façon de travailler en petits groupes, collectivement, avec différents partenaires, qui fait émerger les projets. Et tu vois, ben, on en est à la phase concrète maintenant. Enfin, l'idéal, c'est effectivement que les projets remontent du territoire et qu'ils soient en accointance et de faire du plus humain le plus possible. Donc, avec ces dispositifs, on y arrive.
Voilà. Et c'est surtout l'idée d'associer autour d'un même projet des personnes ou des structures qui ne travailleraient pas forcément ensemble naturellement. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est un projet touristique, mais du coup, on travaille avec le centre d'art, on travaille, avec les accompagnateurs moyenne montagne, avec des collectivités. Voilà, c'est d'associer autour d'un même projet une multitude d'acteurs et de compétences qui vont avoir...
Antonia Mesquida, chargée de mission au parc naturel de Millevaches.
C'est ça qui va enrichir le projet. C'est vraiment dans un esprit de co-construction des projets. Ce n'est pas le projet du parc, c'est vraiment un projet à terme du territoire.
Et ce qui serait intéressant, c'est aussi d'arriver par rapport aux matériaux employés, aussi d'aller voir les filières, la filière bois, la filière pierre, enfin toutes les filières qui seront intéressées, enfin dont on aura besoin pour arriver à aussi fabriquer et créer des choses qui soient très en phase avec ce qui se produit localement et valoriser ces savoir-faire.
Et de toute façon, toutes les équipes qui ont répondu à cet appel à candidature, au-delà même des deux équipes qu'on a choisies, ont toutes fait ces propositions de travailler effectivement à partir des ressources locales, des acteurs locaux. Voilà, c'est vraiment au cœur du projet.
On va laisser le soin aux deux équipes sélectionnées associées à l'artiste Simon Bouvin et Sus Architecture. Architectes associés à l'association Zebra 3 de nous présenter tout à l'heure leurs propositions. Mais d'ores et déjà, je tiens à les remercier de s'engager à nos côtés sur cette mission qui va aboutir à la conception d'un modèle d'aire de bivouac qui, je n'en doute pas, contribuera à la réussite du projet. On a un territoire où il y a du bois, on a un territoire où il y a de la pierre, on a un territoire où on a tous les matériaux de base pour faire quelque chose de sympathique, emblématique. Je crois que toute la filière autour de nous, bois, que ce soit les scieurs, que ce soit les entreprises, sont intéressées et commencent. Moi, je sais que depuis 3-4 mois, à chaque fois que je vois un scieur, je dis « si j'ai besoin de bois, tu m'en donnes ». Ils me disent tous « oui, donne-moi tes débits ». Bon, on n'en est pas là. Mais bon, il y a une vraie volonté, je veux dire, des acteurs locaux. Et quand j'ai des acteurs locaux, on peut avoir des scieries de 2-3 personnes, quoi, je veux dire, et comme des entreprises un peu plus importantes. Mais bon, on n'aura pas de mal à mobiliser la filière professionnelle à nos côtés sur ce projet emblématique.
Ça ne restera une bonne idée que si on nous trouve aucun porteur de projet ou maître d'ouvrage possible. Mais avec les contacts que l'on a en ce moment, Antonia et moi, on me laisse à penser qu'il y a des élus qui ont envie de ça et qui sont prêts à y mettre quelques moyens.
Gilles Despérou, voilà, chargé de mission tourisme durable au parc naturel Millevaches.
Hier encore, on était à la commission là, en fin de semaine, j'étais à Chavanac. Bon, la commune n'a pas de moyens autres, mais par contre, elle est très intéressée par le projet. Si elle avait un terrain et un peu de moyens, je crois qu'elle mettait des billes sur peut-être la construction d'une aire de bivouac. Quoi. Enfin, donc, quand on discute avec les propriétaires du gîte d'étape, ils sont intéressés. Enfin, voilà, donc on est confronté effectivement à la problématique, mais on a des gîtes d'étape, on a des chambres d'hôtes qui ne fonctionnent pas forcément très bien, mais on a des arguments, on travaille depuis 2 ans, on a convaincu qu'il fallait qu'on aille vers ce type de proposition, donc il n'y a pas de raison qu'à un moment ça ne sorte pas. Il n'y a aucune raison que ça ne sorte pas. Au moins le premier sortira peut-être dans la prairie du parc, voilà, donc c'est un proto, on pourra le voir, on pourra le tester, on pourra...
Dormir dedans, ouais.
Non, mais moi je... Non, mais on va tout faire pour aboutir, quoi. Pour qu'il y en ait au moins 2 ou 3 qui permettront de faire une boucle de 3 jours, quoi. C'est le projet. Non ?
Bah oui,
on peut pas dire mieux, non, mais c'est vrai partout. Hein. Après, il a bien dit Jean-Paul, mais il faut insister, il y a des collègues du Parc des Landes qui s'intéressent Ils voudraient mettre en place des bivouacs le long de la Leyre, donc ils attendent un petit peu le résultat de nos expérimentations pour voir ce que ça donne. Le livre à bois. Nos collègues des Causses du Quercy souhaitent implanter une aire de bivouac, ou en tout cas une œuvre d'art, un peu dans l'esprit ce qu'on a vu là. Sur, je crois, un chemin de Compostelle, ils ont identifié le site et autres, ils regardent aussi précisément ce qu'on fait. Enfin voilà, donc il y a des manifestations d'intérêt. Je serais fort. Alors, ce qui serait emmerdant, entre guillemets, ça serait que ça voit le jour, ça voit le jour ailleurs, partout et pas chez nous. Parce que ça pourrait arriver. C'est-à-dire, le proto est là, il est mis en place partout et pas chez nous. Non, mais ça serait une catastrophe quand même.
Donc le centre d'art est particulièrement réceptif à ces sujets qui articulent randonnée et art contemporain.
Sophie Bertrand, présidente du centre d'art de Vassivière.
Ça fait suite à une journée qui avait eu lieu en septembre 2015 au centre d'art qui s'appelait Randonnée, art contemporain et paysages, où il y avait déjà l'IPAMAC, et qui avait présenté des exemples similaires en Aveyron et en Ardèche. Pour le centre d'art, pour moi, il y a trois points particulièrement importants et pertinents sur cette résidence. En introduction, c'est quand même une résidence qui accueille des architectes et des artistes. Donc il y a déjà eu des résidences avec des architectes, il y en aura d'autres, mais il y a un peu cet intérêt-là, parce que oui, je suis architecte, et puis que ça met en lien aussi avec le paysage. Pour nous, il y a aussi un intérêt par rapport au fait que ça soit à l'échelle du parc et que ça dépasse notre terrain de prédilection qui est Vassivière. Donc il y a une vision plus globale du territoire. Deuxième chose, on s'appuie sur l'existant. Il y a déjà des randonneurs, il y a déjà des circuits de randonnée. Il y a de notre côté, comme vous l'avez dit, un maillage avec de l'art contemporain. Donc il y a déjà là, et c'est comment on le met en valeur et comment on relie les choses. Et du coup, la troisième chose importante, c'est qu'il y a un travail de structuration et d'articulation, de rencontre entre des pratiques, des publics et des économies différentes. Donc on met en lien ce qui a tout intérêt à travailler ensemble.
On a identifié par rapport à des clientèles jeunes ou des clientèles qui ont envie d'un peu plus d'immersion dans les territoires, ce besoin de diversifier les offres d'hébergement, de quitter un peu ce modèle de, finalement, pour faire de l'itinérance, il faut des gîtes hyper confortables, il faut des chambres d'hôtes très cocooning. Non, non.
Jean-Paul Guérin, délégué général de IPAMAC, association qui regroupe tous les parcs du Massif Central.
On pense que, quelque part, il y a des gens qui sont en attente, que ce soit une clientèle effectivement plus jeune ou un peu plus avec des envies d'immersion, de gens qui sont en attente de formes d'émergement, de lieux d'état plus simples, et donc, pour le coup, d'air de bivouac où on est un peu plus autonome. Et là, on s'est croisé effectivement avec les préoccupations du parc de Mille Vaches, puisque donc ces questions d'air de bivouac, ça correspond non seulement à des attentes de ces clientèles, mais ça correspond aussi à des besoins de remplir un certain nombre de zones blanches sur les territoires du Massif Central. Et donc, on a fait ce choix d'avancer avec deux équipes, enfin après en avoir eu 64, auditionner 6 ou 7, de faire en sorte qu'on puisse faire travailler deux équipes en résidence, en partenariat avec le SIAP, pour qu'on arrive avec une seule de ces équipes à un objet qui pourra servir de modèle à ces créations d'aires, à ces aires de bivouac, mais pour le coup, expérimenté à l'échelle de Mille Vaches, expérimenté à l'échelle du Livradois Forêt, mais qui ont vocation à se déployer sur l'ensemble du territoire du Massif Central, et c'est toute la richesse du projet. Voilà pourquoi on est là, donc on va vivre 6 mois ce projet, et au bout de 6 mois, a priori, on aura quelque chose, des éléments qui permettront de le montrer. Alors on n'aura pas un prototype à l'échelle 1, mais on aura quelque chose qui permettra de pouvoir aller vers des porteurs de projets, des maîtres d'ouvrage locaux, pour aller réellement dans une phase de création. Je crois qu'ici, c'est déjà en train de s'organiser. Dans d'autres territoires, on aura sûrement des projets qui vont déboucher très, très, très prochainement. Et donc, nous, notre métier au niveau d'IPAMAC, c'est qu'aussi ce modèle, entre guillemets, puisse être diffusé auprès des 8 autres parcs, voire au-delà, puisque on est bien sur cette ambition-là. Voilà. Donc on va passer la parole aux deux équipes, hein, puisque vous avez compris qu'on a eu un processus de...
Est-ce qu'on peut poser quelques questions?
Oui, si vous voulez.
Par rapport à la randonnée, qu'est-ce que ça représente actuellement sur le parc, dans les parcs du Massif Central?
Question d'un journaliste.
Alors, par rapport aussi aux hébergements, puisque bon, vous parliez aussi des gîtes et des chambres d'hôtes, comment vous allez articuler par rapport à ça? Parce qu'ils existent aussi sur le territoire quand même, ces hébergements-là. Même s'ils ne s'adressent peut-être pas forcément au même public.
Donc, ce qu'on peut dire, bon, il n'y a pas d'éco-compteur sur l'ensemble des sentiers du parc, mais bon, pour vous donner une idée, bon, c'est vrai que la saison ici est relativement courte. Aujourd'hui, je prends la maison du parc, la maisonnette du parc, on accueille un peu plus de 3000 personnes sur une année, mais dont 2000 juillet-août. Bon, soyons clairs. Bon. Et sur les 2000 qui viennent juillet-août, allez, 75% d'entre eux viennent pour randonner. Et marcher. Donc c'est vrai qu'on est vraiment une destination. Alors c'est vrai que la Maison du Parc n'est pas un office de tourisme. Soyons clairs aussi. On est quand même identifié comme étant une porte d'entrée nature et balade. Quoi. Mais ça veut dire que la demande monte. Aujourd'hui, on devient une destination nature-marche. Ça, c'est une certitude. Par rapport aux hébergements, il y a des hébergements sur le secteur, mais là, les co-bivouacs va être sur un autre type de clientèle. L'étude typique qui a été faite par IPAMAC montre bien qu'on a en CSP, quoi, je veux dire, en catégorie sociaux, bon, c'est pas des CSP, c'est pas des sociaux professionnels, mais catégories sociotouristiques, des CST, quoi, des catégories sociotouristiques, donc on a différentes personnes qui vont venir marcher. Et il est évident que le type d'hébergement qu'on va offrir s'adressera à deux, trois types de randonneurs et pas à la totalité des randonneurs. Quoi. Sachant que là, on parle beaucoup de randonneurs, mais nous, dans la notion éco-bivouac, on voit aujourd'hui trois types d'utilisateurs. Quoi. Bon, la marche à pied, c'est évident. Hein. L'équitation, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de sentiers quand même sur le secteur. Le vélo, quoi. Et à travers le vélo, ce qui est en train de monter en puissance d'une manière importante depuis 2-3 ans, c'est le vélo électrique, quoi, qui permet à des personnes, quel que soit l'âge, quel que soit l'élément, d'avoir l'impression d'être sportif dans un confort total. Non, mais bon, c'est quand même quelque chose. Avec un VTT électrique, faire 40 km dans une journée, mais c'est rien. C'est rien. Même avec des montées. Moi j'habite à 3 km d'ici, j'ai une côte à 14%. Je veux dire, sans VTT électrique, je ne viens même pas au parc à vélo. Quoi. Avec un VTT électrique, j'y viens de temps en temps.
On n'a pas à rougir dans le Massif central de notre place en ce qui concerne l'itinérance au niveau national. On est, à part le GR20, on est dans les tout premiers itinéraires. On a les tout premiers itinéraires fréquentés en France.
On a du Stevenson et du Compostelle.
Et voilà. Et quand on regardait, pour le coup, je reviens sur la GTMC VTT, c'était la grande traversée VTT du Massif central. Ça fait Avalon-Cap d'Agde. Voilà. Ça a été une grande traversée VTT qui a disparu des écrans radars en termes de labellisation, mais qui n'a jamais perdu sa fréquentation et qui a été en France une des toutes premières en termes de niveau de fréquentation. Donc on a vraiment des... Et parce que les défauts du Massif central, dans ce cas-là, deviennent des atouts. C'est-à-dire nos montagnes rondes et vertes facilitent des pratiques. Alors que sur des pratiques comme ça, le vélo, quand on est dans les Alpes, c'est très compliqué et c'est très sélectif. Et on se retrouve avec des scores qui sont beaucoup moins importants, hein, de l'ordre de 300-400 personnes, alors que là, on était sur 2000-3000. Donc ce qui veut dire que développer l'itinérance sur nos territoires du Massif central, y compris sur les territoires les moins denses, c'est vraiment un levier de développement qui est fort. Et justement, pour en revenir à la première partie de votre question, ou une partie de la question, comment on gère les choses avec les gens qui sont installés et qui procurent déjà du service. Donc ça a été une réflexion. Donc il y a l'idée vraiment de faire en sorte de coupler les dispositifs. Alors on doit... Il faut que ça réponde à l'imaginaire herbivouac, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire quand même un peu into the wild, mais que ce ne soit pas si éloigné que ça des services, y compris pour éventuellement les conforter et apporter de la sécurité aux usagers, parce que même si tout le monde se dit on a des envies de nature, de sauvage, de tout ce qu'on veut, à un moment, bah, s'il fait vraiment mauvais, peut-être que si on n'est pas très loin d'un truc qu'on peut s'abriter et chauffer, ça ne va pas si mal que ça. Donc je pense que c'est tout le travail qu'ont fait les collègues de Millevaches dans les groupes de réflexion, c'est pouvoir justement mailler cette nouvelle offre qui va répondre à un nouveau type de clientèle avec l'offre existante, sans la mettre en concurrence, mais au contraire en la renforçant. Et donc là, je crois qu'on a l'esprit bien clair là-dessus. C'est pas du tout amener quelque chose qui va se suppléer à l'offre existante avec des services. C'est quelque chose qui va la renforcer. D'autant qu'on s'observe tous. Hein. on a tous, même si on a envie de coucher à la belle étoile parce que le ciel il va être étoilé, que ça va être super et tout va bien, finalement manger le soir dans une auberge où on est servi et c'est à base de produits locaux, c'est pas si mal que ça. Donc on est multiple dans nos consommations. Donc il va falloir que la manière dont en particulier elles vont être implantées réponde à ces différentes attentes.
Sur le profil de la clientèle visée, en deux, trois mots, c'est quoi ? C'est plutôt jeune, urbain
On est plutôt sur ces profils de bivouac, plutôt sur effectivement une clientèle jeune, urbain, éventuellement qui ont des envies peut-être de pas forcément aller dans des hébergements, ce que je disais tout à l'heure, un peu trop typé. On a peut-être été dans l'offre itinérant d'hébergement le long des itinérances, un petit peu loin dans les niveaux d'exigence confort, en oubliant un petit peu ce qui était un peu plus authentique.
Pas forcément des familles ?
Si, bah alors pour le coup, vous imaginez le truc, un week-end avec un âne, avec des gamins, s'il fait beau, d'herbivouac en herbivouac, bah c'est le souvenir de la ville. Hein. On retient dans les itinérances, on retient les étapes.
Oui.
On retient pas le cheminement. C'est aux étapes qu'on a de bons ou de mauvais souvenirs. Hein. Observons-nous.
Alors il y a une qualité de ciel ici qui permet en plus de... d'avoir toute cette notion de ciel étoilé, de qualité du ciel. Il y a pas mal de petites communes qui sont labellisées et le parc est en réflexion pour éventuellement aller chercher un label. Aujourd'hui, on a une qualité de ciel qui nous permettrait de prétendre être la 20e réserve mondiale de ciel étoilé.
Donc avant de passer la parole aux équipes, peut-être que... Puisque là, vous avez compris qu'on était dans une dimension massif centrale avec deux parcs qui sont dans l'expérimentation. Il y a Caroline qui peut peut-être nous dire deux mots sur le point de vue du Livradois-Forêt.
Du coup, je suis Caroline Leroy, donc je suis en charge du tourisme durable côté parc naturel régional Livradois-Forez, qui est principalement sur le département du Puy-de-Dôme, Loire et Haute-Loire, donc région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le massif du Forez qui est emblématique de notre territoire. Et on a la chance d'avoir deux pôles nature qui sont structurés, donc repérés à l'échelle du massif central, qui travaillent justement sur les loisirs de pleine nature et les nouvelles formes d'itinérance, comme le bivouac, qui ont été soulignés par ces pôles nature. Donc l'idée, c'est, tout comme le Mille Vaches en Limousin, de pouvoir développer une offre d'hébergement nouvelle auprès d'une nouvelle clientèle. Et du coup, on est partie prenante de ce projet de lancement autour de bivouac en massif central.
On se doit d'être exemplaire dans le travail en commun. Quoi. Je veux dire, on est tous conscients que l'argent public est de plus en plus cher et de plus en plus rare. Et on se doit d'optimiser. Quoi. Et c'est vrai que de pouvoir travailler à plusieurs sur une même problématique, de pouvoir mettre en commun des moyens, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Quoi.
Donc je ne sais pas, deux mots de présentation, puis la manière dont vous avez envie d'appréhender ce projet.
On s'appelle Usus, on est un collectif de quatre architectes basés à Bordeaux, et on répond à cet appel d'offres en équipe avec Zebra 3, donc qui se présentera après peut-être. On s'appelle Usus parce qu'on essaie de placer au centre de notre pratique la question de l'usage, donc à la fois l'usage des matériaux, le cycle de vie des matériaux, leur usure, et ensuite les usages au sens façon de vivre. Donc on s'intéresse à l'ergonomie, aux coutumes, aux us. Et on essaie d'être des architectes faiseurs, c'est-à-dire qu'on a une pratique de bureau classique en architecture, mais aussi une pratique d'atelier, à travers laquelle on expérimente à travers des prototypes, des projets de mobilier, de scénographie, essentiellement autour du bois. Et on a aussi une plateforme de recherche sur le bois précisément, qui s'appelle l'usage du bois, et qui donc à travers des comptes rendus de visites, que ce soit de bâtiments construits en bois, mais aussi d'usines qui transforment le bois, de scieries, vise à documenter le matériau bois et ses potentialités. Et on est très heureux d'être tenu à cet appel d'offres.
Et on travaille avec Usus. Moi, je représente Zebra 3, qui est une structure associative qui a été créée par des artistes plasticiens, qui travaille principalement avec des artistes plasticiens, qui a beaucoup développé autour de la question de la production des œuvres d'art, notamment de leur production dans l'espace public, plus particulièrement en lien aujourd'hui avec le projet d'aire de bivouac. On comporte un projet sur l'aire métropolitaine bordelaise d'un programme de refuge périurbain qui fonctionne sur le même principe un peu que les refuges de montagne, on dira, mais qui sont disposés sur une forme d'itinéraire autour de la ville de Bordeaux, donc en banlieue autour, qui permettra à terme de pouvoir boucler à pied le tour de la métropole. Voilà, c'est une expérience qu'on a portée au long cours, donc avec une autre structure qui s'appelle Bruit du frigo. Pour rebondir sur certains éléments que vous avez pu avancer, on a créé avec ce projet-là finalement le désir de venir et de traverser des zones périurbaines qui ont encore moins et même énormément moins d'atouts a priori que vos magnifiques espaces naturels. Voilà, donc d'expérience, voilà, on sait que des objets particuliers à dimension artistique peuvent créer des désirs ou révéler des désirs. On sait que aussi nous, par exemple, parce que, bon, on travaille avec la métropole et eux, ils ont mis en place des outils, par exemple, des outils statistiques et tout ça, qu'il y a aussi beaucoup de familles hein, qui ont l'usage de ces espaces-là.
Donc, on passe la parole à Pix.
Je m'appelle Charles Aubertin, donc je représente Pix, qui est une agence de 3 personnes qui est basée à Paris. Une agence assez jeune qui s'intéresse à des questions assez proches des vôtres, des questions de la tournée autour de la petite échelle. On a un travail qui est assez transversal sur les questions de mobilier, de scénographie, de petites architectures, d'architecture temporaire, ce genre de choses. Quoi. Tourner autour de la question des usages, de l'expérimentation. On a aussi une pratique où on fabrique les choses nous-mêmes. On a eu plusieurs expériences en résidence, dans des centres d'art ou à l'occasion de workshops avec des écoles, etc. Donc avec aussi une dimension pédagogique dans les actions qu'on mène. Et on est associé à Simon Boudevin pour cette candidature qui est artiste plastique. Hein.
Suite.
Ouais, tout à fait.
J'ai une double formation en fait, beaux-arts et architecture, mais je suis artiste. J'ai longuement enseigné dans différentes écoles d'architecture et actuellement j'enseigne en paysage à l'université d'Édimbourg. J'ai pu avoir des expériences de bivouac aussi en Écosse. Et artistiquement, je viens d'une famille que vous connaissez peut-être. J'étais étudiant de Giuseppe Pennone, donc il y a un artiste de l'Arte Povera qui observait la nature comme sa matière première et qui, plutôt que d'imposer des formes aux matériaux, faisait du geste de l'artiste un geste qui continue celui de la nature. Par exemple, il taillait des formes d'arbres en taillant le bois dans le sens de sa fibre, donc révéler des jeunes arbres dans d'anciennes poutres, etc., ou copier le rocher d'un ruisseau, en faisait un double. Et c'est dans cet esprit-là, c'est cet enseignement-là qui nous a donné, plutôt que d'imposer des formes, que nos volontés artistiques imposent des formes, c'est plutôt de percevoir les énergies, qu'elles soient naturelles ou même par les acteurs, etc., de les accompagner et dans des projets. Donc ce sont des projets artistiques qui ne sont pas forcément très expressifs, mais qui cherchent à donner sens à chaque emploi de forme ou de matériaux.
Et en deux mots, nous, notre proposition, elle s'articule à la fois sur la question des bivouacs en eux-mêmes, autour de la volonté de créer un carnet qui soit un guide à disposition des différents maîtres d'ouvrage qui vont être amenés à construire les zones de bivouac, autour de deux grandes familles qui seraient des objets qui seraient des objets variants, des objets donc mobiles qui servent des usages, que ce soit les questions de feu, d'eau, de rangement, d'abri, etc. Et des systèmes qui soient, eux, beaucoup plus flexibles et qui s'adaptent aux différents espaces dans lesquels les aires de bivouac vont devoir être construites. Donc c'est de penser une stratégie qui est une stratégie d'objets réplicables et une stratégie d'objets, au contraire, très souples, en fonction des différents cas dans lesquels on va pouvoir s'insérer.
En termes de calendrier, donc le début de la résidence est bientôt, c'est ça ?
Dès le 1er février, donc il y a une phase de résidence qui est prévue donc entre le 1er février et le 31 mars. L'objectif, c'est que sur ces deux mois-là, les équipes puissent proposer, donc fin mars, début avril, une esquisse. Mm-hmm. Il y aura une restitution publique qui sera organisée le mercredi 4 avril au SIAP, donc une présentation des deux projets. Et à l'issue de cette présentation, il y aura un jury qui se réunira pour sélectionner une équipe pour la réalisation de la phase, avant-projet sommaire, APS, qui débouchera à donc une proposition de modèle au mois de juin 2018.
D'accord. Toujours sur l'île de Vassivière, elle sera... Le premier modèle sera construit.
Alors après, voilà, donc
c'est pas fixé encore. Enfin, on a quelques pistes chaudes dans un rayon de quelques centaines de mètres d'où on est. Ça s'arrête là pour l'instant.
Donc le premier serait plutôt pour la Corrèze alors. Enfin, sur le parc, a priori, ça serait plutôt sur la Corrèze.
Bon, le premier circuit sur lequel on va travailler, c'est un circuit qui est effectivement sur la Corrèze, oui. Avec des départs plutôt fléchés et sur Millevaches, la maison du parc, et sur Mémac, où on peut venir en train. Voilà, ce serait vraiment un circuit sur ce que nous on a appelé le cœur de parc, c'est-à-dire Millevaches, Chavanac, Saint-Mer-les-Oussines, Tarnac, Perlevade. Sur tout ce secteur.
On se doit d'avoir 2-3 points de chute clairement fixés dans les deux mois qui suivent, maintenant, de façon à ce que les équipes déjà puissent s'imprégner d'un endroit possible, donc d'un environnement paysage. On dit, il y a 2-3 types de paysages, que vous puissiez déjà vous projeter dans des endroits précis. Donc c'est vrai que le premier, le prototype et l'élément, le premier circuit... Je suis peut-être un peu directif, quoi. Mais bon, non, mais à un moment donné, c'est vrai, on s'est dit, on avance, et on se fixe déjà un premier cadre. Ensuite, le but, c'est de le dupliquer, et là, il y a de la demande. Aujourd'hui, on peut dire que peut-être au niveau du PNR, il y a peut-être déjà 5-6 territoires qui sont intéressés, quoi. Que ce soit les Monnédières, que ce soit Vassivière, que ce soit Château-Vert-Grillé, que ce soit... Aujourd'hui, depuis le temps qu'on en parle, ça commence à susciter. On ne peut pas aller dans une com-com sans qu'on nous dise « Vous en êtes où ?»
Mais concrètement, une aire de bivouac, c'est quoi ? C'est une petite structure, c'est quelque chose qui se démonte.
20 maxi. En termes de cahier des charges et capacité d'accueil, 20 maxi. C'est un endroit où on peut coucher au sec, manger au sec... pouvoir faire du feu, pouvoir observer les étoiles,
avoir un point d'eau,
toilettes sèches. Voilà l'essentiel du programme.
Okay. Éventuellement pouvoir mettre des hamacs dehors pour dormir, c'est quelque chose de relativement léger, quoi, de light, mais qui permet, s'il pleut, de faire sécher, de pouvoir quand même mettre à l'abri à minima.
Après, dans le projet, vous parliez de groupe. C'est vrai qu'il y a une notion importante, c'est que ces aires de bivouac, elles vont aussi favoriser, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce matin, la convivialité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que il y a des personnes qui vont randonner en groupe, d'amis, en famille. Et vraiment, l'espace de bivouac, ça sera, et c'est dans ce sens-là aussi qu'on souhaite qu'il soit conçu, pour qu'il y ait des espaces où les gens peuvent effectivement se replier peut-être pour dormir et être tranquilles, mais des espaces communs pour qu'ils puissent échanger des expériences, discuter. Et il n'est pas non plus inenvisageable qu'en dehors de cette itinérance, ce soit aussi des espaces qui puissent être investis par des acteurs locaux pour des choses, des événements, des expos, des spectacles. Et on sait bien que ce sera aussi des espaces qui seront utilisés par les habitants, sans doute aussi, peut-être pour des usages conviviaux.
Jean-Paul le disait tout à l'heure, ce qui est important dans une itinérance, on se souvient plus du bivouac et de l'étape que du paysage en lui-même. Et face à ça, je me remémorais une marche dans le désert où je me souviens bien où j'ai bivouaqué le soir, je veux dire, à l'abri d'un rocher, à l'abri d'un palmier, de voir la lune arriver, de voir des choses découpées. Je me souviens très très bien de mes étapes du soir. Je ne me souviens pas de grand-chose des 120 ou 130 km que j'ai fait dans le désert. Par contre, j'ai dû passer 4 nuits ou 5 nuits, et là, j'en ai tout de suite, c'était il y a 20 ans, et j'en ai tout de suite 3 dans la tête d'une manière très très précise.
Vous êtes toujours dans le magazine de Radio Vassivière, comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à partir de 17h30, magazine rediffusé le lendemain à 8h20 et 12h30. Vous êtes toujours à Mille Vaches pour la présentation du projet d'aire de bivouac artistique.
Le camping sauvage, c'est interdit ?
Le camping sauvage, c'est interdit.
Il y a une réglementation par rapport au bivouac, donc on peut sous-entendre comme du camping sauvage. La réglementation nationale, hormis les espaces protégés type Natura 2000, certains arrêtés, c'est des arrêtés.
Arrêtés de protection de biotope. Alors, les arrêtés de protection de biotope dans le parc, il y a 5 sites qui font l'objet de l'arrêté de protection de biotope. Sur le périmètre du site en question, tout type de bivouac ou de camping est totalement interdit.
Ces sites ?
Là, par exemple, l'étang des Oussines, l'étang Bordeaux un peu plus haut, enfin, j'ai la liste, il y en a 4 ou 5 sur le territoire du parc. Là, vous n'avez le droit de faire ni du feu, ni du camping, absolument rien. Mais ce sont des périmètres très circonscrits. Après, par exemple, dans le parc de Mille Vaches, il n'y a aucune réglementation.
Il y a une réglementation nationale
peut-être, mais...
où vous pouvez bivouaquer à partir du moment où le soleil est couché, vous enlevez votre tente le lendemain, quand le soleil se lève. Ça, c'est la réglementation nationale, hormis des décisions par rapport à des enjeux environnementaux particuliers ou décisions municipales ou communales. Voilà ce que c'est que la réglementation dans le bivouac.
Non, sinon, le tourisme durable sur le plateau de Mille Vaches, en deux mots.
C'est pas une question, ça. C'est un mot valise hein, qui nous...
Oui, voilà, non, c'est un mot valise.
Quelle est la question ? Non, on a
c'est
besoin de questions
précises.
Et comment il s'est décliné le tourisme durable dans nos parcs, Caro ?
Ah non, c'est la question, c'est Mille Vaches.
Mais dans le livre à Doigts Forest, c'est intéressant aussi. C'est
non, mais...
Nous, on a un positionnement sur le tourisme durable, sur l'offre touristique durable en livre à Doigts Forest. C'est développer le hors des sentiers battus et c'est d'aller vraiment privilégier ce qu'on appelait les nouvelles expériences. Le livre à Doigts Forest se positionne autour d'une stratégie marketing, l'Auvergne des nouvelles expériences. L'idée, c'est pas uniquement de consommer, mais aussi, d'être aussi acteur de ses vacances, tout simplement. Et aujourd'hui, on voit au niveau des tendances touristiques que le client, que le touriste, que le visiteur cherche davantage à participer et à agir durant ses vacances plutôt que d'être simple consommateur d'une offre brute. Donc ça privilégie la rencontre et pas uniquement touristique. Donc les touristes vont rechercher la rencontre avec des producteurs, avec des artisans, avec des locaux aussi. Il y a le phénomène de greeters où ce sont des non-professionnels du tourisme qui accueillent les touristes. Il y a plein de choses comme ça et ça contribue aussi à un tourisme durable. On n'est pas uniquement sur le volet environnemental, on est aussi sur le volet humain et sur le volet rencontre avec une recherche de sens et d'authenticité. Et
dans nos parcs, globalement en France, ça se décline avec deux outils qui sont bien spécifiques au réseau des parcs. La charte européenne du tourisme durable, qui est un dispositif qui permet d'engager le territoire et un certain nombre d'acteurs dans une démarche de progrès notamment. Donc c'est la création de réseaux autour des valeurs du tourisme durable. Et puis on a un autre outil qui s'appelle la marque parc, qui s'appelle aujourd'hui au niveau national Valeur Parc Naturel Régional. Cette marque est attribuée à des productions agricoles, à des produits et services touristiques. Ça peut être des hébergements, justement, des gîtes, des sites de visite, des espaces, des gîtes d'étape, enfin voilà, tout type d'acteurs touristiques. Et également des savoir-faire. Et donc cette marque aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Caro, on est 51 parcs ou 52, il y a près de 35 ou 40 parcs qui se sont engagés aujourd'hui dans la marque.
Dans les parcs courts, on a quasiment...
Voilà, et donc cette marque, ses partenaires constituent un réseau de partenaires privilégiés engagés au service des enjeux du développement durable et donc du tourisme durable. Et les parcs ont l'habitude de travailler, de promouvoir ces partenaires qui forment, comment on va dire, des ambassadeurs, des enjeux du territoire, enfin voilà. Et donc nous ici par exemple à Mille Vaches, on avait commencé à démarrer la marque parc sur les hébergeurs et sur les productions agricoles. Ça s'est interrompu parce qu'on révise notre charte, mais à partir de la fin de l'année, début 2019, on va relancer la marque. Moi, je vais la relancer auprès des hébergeurs. J'en ai que 6 engagés dans la marque. Et le but, c'est d'en avoir le plus possible, 15, 20, 30, pour constituer ensuite une masse critique visible et autre. Voilà. Ça, c'est un vrai travail. La charte européenne, c'est pareil, c'est une stratégie territoriale au service du développement durable. Hein, voilà. Donc Caro l'a bien dit, on doit vivre une expérience, on s'immerge, on prend du temps, on rencontre des acteurs, on fait des stages, on fait voilà, elle a dit que l'idée c'était pas de consommer, non, on fait du tourisme un peu intelligent, on prend du temps. Si je devais résumer le tourisme durable, il y a forcément une médiation, il y a quelqu'un qui vous raconte une histoire, qui prend le temps de vous immerger sur un territoire, de vous le faire comprendre, de vous le faire découvrir. Voilà, c'est ça le principe de base. Et tous les parcs travaillent de la même façon, hein, faut être clair. Tous. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait quoi, deux, trois ans que la Fédé, au niveau national, a remis à plat toute sa stratégie nationale autour de la marque. La marque avait... ce n'était pas une marque à vocation commerciale. Elle l'est aujourd'hui désormais. Auparavant, chacun des parcs avait un dispositif propre. Ça s'appelait accueil dans le parc naturel régional du Livradois-Forez, accueil dans le parc machin, c'était pour les hébergeurs. Aujourd'hui,
avec un référentiel
voilà,
propre à
chacun des parcs.
C'est-à-dire que la marque accueil dans le Livradois-Forez n'était pas la même qu'en Mille Vaches. Même si on travaillait ensemble, c'était chaque parc pouvait proposer une démarche qualité avec un cadrage de base qui était validé au niveau national et après décliné dans chaque territoire. Donc on se retrouvait avec des référentiels pour notre part à 150 critères, alors que le parc d'à côté était à 60. Donc on n'avait pas le même rapport qualité sur les territoires. Et du coup, voilà, notre fédération a souhaité lisser tout ça et harmoniser tout ça. Et là, maintenant, voilà, la marque Valeur Parc en Mille Vaches est la même que dans Livradois-Forez.
C'est une orientation client pour que la promesse client soit la même, de territoire voilà. À l'autre. C'est-à-dire, on est dans le Vercors ou dans la Narbonnaise, la marque Parc, elle doit vouloir dire à peu près la même chose.
Voilà. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, dans une étude, il a été dit que les gens qui seraient intéressés par la randonnée et le bivouac étaient il a dit CST+. C'était une invention. Bon, mais derrière cette invention, c'est quoi la réalité, en fait, que vous avez vu dans votre étude ?
On parle de typologie de clientèle touristique. Au niveau des professionnels du tourisme, on différencie les clientèles touristiques par rapport à leurs origines géographiques, leur pouvoir d'achat, leur revenu, l'âge, etc., les tendances de consommation, ce qu'on appelle typologie. Voilà.
Et donc, il en ressort que ce genre de parcours s'adresse plutôt à qui ?
Mais là, par exemple, il faudrait qu'on me le transmette l'offre. Les bivouacs, clairement, sont fléchés sur une population de 18-30 ans. 18-35 ans, des jeunes, 18-35 ans. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui font de l'itinérance en France, c'est ce qu'on appelle des CAFistes, je crois, ils l'appellent dans les... Le CAFiste, c'est le Club Alpin Français. Ce sont ceux qui ont fait toutes les grandes itinérances en France. C'est plutôt 50-70. Des mecs aguerris qui ont fait le Gervin.
C'est des pré-retraités.
Ouais, les mecs qui sont allés à moyenne et haute montagne. Voilà. Et donc c'est ça, aujourd'hui, le cœur de cible de la randonnée en itinérance. Or, les bivouacs peuvent permettre de drainer une clientèle plus jeune qui aura envie de s'immerger et puis de découvrir une nouvelle expérience, très clairement. Et je parlais avec un de vos collègues des groupes. Ce qu'on n'a pas dit depuis ce matin, c'est que nous, on escompte pouvoir aussi attirer, par exemple, des centres de loisirs, des colonies de vacances, des choses comme ça, sur nos aires de bivouac, avec un petit groupe de 15 ou 20 ados qui vont venir faire une ou deux nuits en bivouac, mais peut-être de la proximité. Les centres de loisirs de Tulle, de Brive ou de Limoges, qui auront envie de venir faire deux ou trois jours en itinérance. Et pour certains gamins de 12 à 13 ans, ça sera la première expérience d'immersion en nature. Ça aussi, c'est une cible. Alors, ce sont les accompagnateurs de moyenne montagne qui avaient aussi détecté ces potentialités-là et qui sont réelles. Pour ces groupes, c'est une réalité. Mais là, quand on a travaillé, par exemple, le début du projet, il y avait un spécialiste du VTT. En l'occurrence, lui, il est de Chamberet, donc il est aussi directeur d'un centre de loisirs. Très clairement, il nous disait, moi, si vous mettez 3-4 aires de bivouac, je viendrai avec mes gosses faire du VTT et utiliser vos aires de bivouac. Voilà, donc c'est aussi ça, hein, les jeunes qui découvrent, il y a ce côté un peu jeunesse et sport, hein, on découvre l'immersion en pleine nature, c'est le côté un peu hit aux oreilles, là, pour les premiers. Quoi. Voilà, on va aussi essayer de capter ce segment de clientèle-là, quoi. Voilà.
C'était la présentation du projet de bivouac porté par le PNR et le Centre d'art, une présentation enregistrée à Mille Vaches, mardi 16 janvier 2020.